Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18, qui va s'afficher. C'est écrit en petit. Nous voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour tous ces mots d'espérance que tu nous as donnés avec ta résurrection. Aide-nous, Seigneur, à les comprendre et surtout à les diffuser autour de nous, pour que tous puissent voir ta gloire et croire en toi. Amen. Malheureusement, ça fait 3 ans que je suis parmi vous et malheureusement, je me suis rendu compte que plusieurs d'entre vous avaient perdu des êtres chers. Un enfant, un époux, une épouse, une mère, un père, une sœur, un frère ou encore un ami très proche. Et à cause de cette épreuve de la séparation, notre paroisse s'est combien la séparation est difficile. Et encore hier, nous faisions les obsèques de Micheline Pomara, une sœur en Christ qui nous a quittés. Lorsque nous apprenons la mort d'un être cher, il y a une cassure brutale qui se crée entre nous et la personne décédée. À partir de ce moment, la Bible nous le dit, plus aucun échange ne sera possible avec le défunt. Et c'est un péché que de vouloir communiquer avec les morts. Alors bien sûr, il peut nous arriver de parler, mais c'est pas vraiment parler avec les morts. Dire oui, papa, etc., je t'aime, ça c'est pas parler. Mais rappelons-nous que dans la Bible, Saül a voulu communiquer avec un mort, avec le prophète. Il a été sévèrement puni. Et nous savons que c'est difficile quand nous perdons un être cher. Parce que c'est plus possible de communiquer avec lui. Nous ne choisissons pas ni la date, ni l'heure du départ de nos êtres chers, mais aussi de la nôtre. On ne choisit pas cette heure. C'est Dieu qui l'a choisie. Et nous sommes contraints de l'accepter. Face à la mort de nos êtres chers, nous sommes affligés et c'est tout à fait normal. J'ai rencontré des chrétiens qui ne voulaient pas être dans la tristesse et qui s'efforçaient d'être dans la joie. Non, mais on doit être dans la joie. Christ est ressuscité, il est ressuscité. Non, il ne faut pas de larmes. Jésus a pleuré à la mort de Lazare. Ce texte ne nous dit pas qu'il est interdit de pleurer. Ce texte ne nous dit pas qu'il est interdit d'être dans le chagrin. Non. Il nous dit que nous avons une espérance. Il nous dit que cette espérance, elle doit se voir par rapport à ceux qui n'en ont point. Et là, je ne juge pas ces gens. Je dis juste qu'il est difficile de perdre quelqu'un quand on pense qu'il n'y a plus rien du tout après la mort. Et que notre espérance, en ayant vu le Christ ressuscité, est de savoir qu'un jour, nous ressusciterons aussi, nous donne une espérance qui nous aide dans ces temps difficiles. Et je prends un exemple. Quand pour la première fois, un enfant quitte, et je pense que vous avez fait cette expérience en tant qu'enfant et en tant que parent, quand pour la première fois un enfant quitte ses parents pour aller à une colonie de vacances ou pour aller au scout, et si vous avez été moniteur, alors là vous l'avez ressenti, les premiers jours, les enfants se mettent à pleurer parce qu'ils n'ont plus leurs parents. Parce qu'il y a une séparation qui s'est faite avec leurs parents. Et alors, ça pleure. Hein. Et alors, on leur donne une espérance. On leur dit, mais attends, ne pleure pas. Tu vas revoir ton papa. Tu vas revoir ta maman à la fin de la colonie. Et les enfants saisissent cette espérance. Ils arrêtent de pleurer sur le moment, et puis le lendemain matin, ils se remettent à pleurer. Et on leur redit cette espérance. Et ils la saisissent. Mais il y a quand même un petit chagrin qui est en nous, et c'est normal. Il en est de même pour nous. Nos êtres chers sont partis, nous avons une espérance, on est quand même triste de ne plus pouvoir vivre certains moments avec eux, et c'est normal. Par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons cette espérance qu'un jour nous retrouverons le Christ et avec lui tous ceux qui ont mis leur espérance en lui. Nous croyons que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ces personnes qui sont mortes. Cette espérance nous aide à relever la tête et à nous souvenir que Christ a vaincu la mort. Jésus est le premier à être ressuscité et à être auprès de Dieu. Et il nous attend. La résurrection du Christ fait partie des événements les plus importants du plan du salut. Car par la résurrection du Christ, je le répète, Dieu nous montre le chemin qui mène à lui. Jésus est l'ultime chemin qui mène à lui. Alors là, je vais faire une petite parenthèse. J'ai eu la grâce d'avoir des parents qui étaient croyants. Et quand mon père est décédé, j'ai cette chance d'avoir vraiment cette espérance qui est auprès de Dieu. J'ai rencontré des personnes dont leurs parents n'étaient pas croyants et qui sont décédés, et j'ai réfléchi à cette question: quelle espérance pour ces personnes? Quelle espérance? Alors j'ai voulu chercher sur internet pour trouver des indices, je n'en ai pas trouvé. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un professeur en théologie de la faculté Jean Calvin, puis de l'IBG, puis professeur en charismatique, puis plusieurs pasteurs, et la question est très très délicate. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par grâce, que c'est uniquement par la grâce que nous pouvons être sauvés, que du coup si nous ne confessons pas que Jésus-Christ est notre Seigneur, nous n'avons pas notre place au paradis. Alors quelle espérance? Et je disais à ces professeurs, mais il y a forcément une espérance pour ces gens-là. C'est pas possible autrement. Quelle espérance? Alors ils étaient embêtés, et alors il m'a fallu du temps avant de trouver quelque chose. Alors je vais faire un petit peu de hors-piste, hein, parce que la Bible, elle est là pour nous dire qui est sauvé, pas pour nous dire qui n'est pas sauvé. Le but de la Bible, c'est de nous amener vers le salut. Mais en m'appuyant sur plusieurs textes, voilà, je suis arrivé à cette conclusion. Je retrouve. Voilà. J'ai trouvé plusieurs pistes d'espérance. Si nous avons des êtres chers qui ne sont pas croyants, nous avons quand même des espérances. Et ce que je vais dire est parfaitement biblique là. Dieu est amour. Ça, ils l'ont tous dit, et vraiment, ça, on doit être conscient de ça. Dieu est amour. Il aime ses brebis, et il les aime tellement qu'il a donné sa vie pour elles. Et Dieu veut le meilleur pour nous, et ne veut pas que nous soyons tristes pour l'éternité d'avoir perdu des êtres chers. Et en Apocalypse, au verset 21, 4 à 5, il est marqué: « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu, et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Cela est une certitude. nous serons heureux dans le ciel. Et ça, c'est une espérance que nous devons toujours saisir. C'est que quoi qu'il arrive, Dieu nous donnera de la joie, même si malheureusement certaines personnes ne seront pas au ciel avec nous. Le comment il va le faire, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Mais c'est une certitude. Nous serons heureux dans le ciel. Même si c'est un grand mystère, saisissons cette espérance. Nous serons heureux. Il ne nous ressuscitera pas pour que nous soyons dans la tristesse d'avoir perdu des êtres chers. Mais il nous ressuscitera pour être dans la joie. Alors si maintenant que les choses se compliquent un peu, parce que bon, ça ne satisfaisait pas beaucoup non plus ici. Je vais faire un petit peu d'orpiste, mais pas trop. Hein, vous savez comme je suis, je m'attache beaucoup à la Bible. Nous ne pouvons être sauvés que si de notre vivant nous confessons Christ comme notre Seigneur. Et après avoir parlé longtemps avec les professeurs de théologie, je suis arrivé à cette conclusion. Je crois que nous sommes tous des bénédictions pour nos êtres chers. Et que par notre témoignage, ils pourront peut-être se tourner vers le Christ à la dernière minute, sans que nous le sachions. Et pour cela, je m'appuie sur trois textes. Le premier est en 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 12 à 16. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, donc Paul, si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme. Et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. En effet, comment peux-tu savoir femme si tu sauveras ton mari? Ou comment peux-tu savoir mari si tu sauveras ta femme? Ce texte, pour moi, nous dit que nous sommes vraiment des bénédictions pour nos épouses ou maris, pour nos enfants, pour nos cousins, pour tous nos êtres aimés. Et quand il dit, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari, cette interrogation lui dit, mais tu ne peux pas le savoir. Christ seul le sait. Christ seul est à la manette. Et je pense que ce n'est pas à nous de savoir. Christ est le Seigneur souverain, ce Dieu d'amour. Le deuxième passage est dans Matthieu, au chapitre 20, versets 8 à 15, et c'est la conclusion de la parabole des ouvriers de la dernière heure. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté. » La fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ces derniers autant que toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ?» Et nous pouvons aussi prendre tout de suite ce troisième texte, du brigand qui est à côté de Jésus, et Jésus lui dit, après que le brigand ait confessé sa foi, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Que nous ayons confessé notre Seigneur, tout petit, que nous le fassions une heure avant notre mort, c'est la même chose. Ça peut enrager certains, et je le comprends, et c'est pour ça qu'il y a cette parabole. Mais attends, Seigneur, nous avons été des martyrs pour toi, nous avons souffert sur cette terre, et alors celui qui à la dernière minute confesse ta foi aura autant que moi. Le Seigneur dit oui, oui, je suis ce Dieu d'amour qui aime mon peuple. Alors maintenant ce que je vais dire, là, je suis un peu hors piste, mais je vais m'appuyer sur un témoignage, et donc c'est un pasteur qui m'a raconté ce témoignage et il m'a touché. Il m'a dit qu'il a discuté avec une femme qui était totalement non-croyante. Et on le croit ou on le croit pas, hein, elle a fait un accident de la route, et elle a eu une vision. Elle a eu une vision de l'enfer, et tout de suite, parce qu'elle avait des proches croyants, elle a crié le nom de Jésus. Elle n'était pas croyante, mais elle a crié le nom de Jésus. Tout de suite, dans sa vision, un ange est venu et l'a ramenée à la vie. Parallèlement, les gens pensaient qu'elle était morte et ils l'ont vue revenir à la vie. Et sa vie a été transformée et aujourd'hui elle vit en témoignant du Christ jour après jour. Nous ne connaissons pas ce qui se passe dans le cœur de nos êtres chers. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes une bénédiction et que nous ne devons pas nous lasser de parler du Christ aux gens qui nous entourent. Je ne dis pas ça non plus pour dire « bon ben finalement tout le monde est sauvé, j'en sais rien ». Pas si je sais que tous ne sont pas sauvés, parce que la Bible nous dit que ceux qui ne confesseront pas Jésus-Christ ne le seront pas. Mais je saisis ça, moi, comme une espérance. Nous témoignons à nos... Moi, je témoigne beaucoup à mes cousins qui ne sont pas croyants, et c'est vrai que j'ai tellement envie qu'ils confessent leur vie. Mais peut-être que quelques heures après la mort, ils confesseront le Christ parce qu'ils auront entendu l'Évangile. Voilà, je vais terminer sur cette parenthèse, mais voilà, j'avais vraiment à cœur de faire cette parenthèse, parce que souvent on dit, oui, bon, il y a l'espérance pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, mais pour les autres. Et moi, j'étais mal à l'aise, et je me suis dit, voilà, même si je vais être un peu indélicat, je demande pardon, j'avais envie d'aborder ce sujet, parce que nous avons besoin d'espérance pour tous ces gens que nous aimons. Par sa mort, Jésus a vaincu la mort et par sa résurrection, il est à la droite du Père pour être notre avocat. Ce que Jésus veut, ce n'est pas que nous nous apitoyons devant nos erreurs, devant nos péchés, mais que nous prenions conscience que nous avons besoin de lui pour être sauvés et pour vivre pleinement sur cette terre. Quand nous confessons nos erreurs, nous acceptons de prendre la main de Dieu qui est toujours tendu vers nous pour nous aider. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Dieu est toujours là auprès de nous. Et au moindre petit signe de notre part, il nous enveloppe dans ses bras. Le royaume des cieux ou le paradis n'est pas réservé à une élite, mais il est accessible à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur. Et c'est ça aussi la bonne nouvelle de Pâques, c'est que Christ a payé pour nous. Il n'y a plus rien à y ajouter. Qui que nous soyons, Dieu peut nous offrir ce cadeau pour ce jour de Pâques. Ce qui est formidable aussi avec la résurrection de Jésus-Christ, c'est que non seulement il nous donne l'espérance de la résurrection, mais qu'en plus, il vit avec nous aujourd'hui sur cette terre. Il ne nous dit pas juste... Après ta mort, tu auras un beau cadeau, mais il nous dit, dès aujourd'hui, tu as un cadeau. Dès aujourd'hui, je suis avec toi et je veux t'aider. Et nous sommes nombreux ici, dans cette paroisse, à avoir vécu cette expérience d'avoir le Christ auprès de nous et de nous aider dans tous ces moments difficiles. Et je reprends cet exemple de la perte d'un être cher, mais en vous écoutant, plusieurs fois, vous m'avez dit, mais le Christ était avec moi et il m'a aidé dans ce moment difficile. Et ces témoignages exhortent notre foi mutuellement. Peu de gens ont vu la Covid-19 de leurs propres yeux. Peu de gens. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas pris un microscope, je ne sais même pas combien de grossissements il faut faire pour le voir, ce virus, mais je ne l'ai pas vu. Mais beaucoup savent qu'il existe à cause de ses conséquences sur l'être humain. J'ai vu les conséquences du Covid sur mon père et sur d'autres personnes. Nous l'avons vu aussi sur Sophie, qui était très faible. Parce que nous voyons ces conséquences, nous croyons que la Covid-19 existe. Et pourtant, il y a des gens qui, encore aujourd'hui, continuent à croire que la Covid-19 n'existe pas. Et pas plus tard que cette semaine, j'ai rencontré une personne... Bon, elle me parle de Dieu, je vais donner cet exemple, puis il me dit, ah non, mais la Covid-19 n'existe pas, c'est une blague. J'ai dit, ok, bon, je suis foutu.
Mais
encore aujourd'hui, c'est incroyable, malgré tout ce que nous voyons, il y a des gens qui en doutent. Pour Dieu, c'est pareil. Nous savons qu'il existe par tout ce qu'il fait à travers les hommes. Quand j'ai vu plusieurs d'entre vous passer par l'épreuve et être dans la paix, ça a exhorté ma foi. Quand j'entends des témoignages que vous me donnez, ça exhorte ma foi et je sais qu'il est vivant parce que moi-même, j'expérimente aussi le Seigneur dans notre vie. Et pourtant, malgré tout cela, et malgré le fait qu'on puisse même voir la gloire de Dieu dans sa création, qui est si parfaite, beaucoup de gens continuent à nier l'existence de Dieu. Mais revenons sur cette espérance que Dieu nous donne et relisons les versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible nous dit que Christ reviendra un signal donné sur cette terre. Et quand il reviendra, les morts ressusciteront. Et avec les vivants, ils rejoindront tous le Seigneur. Oh, c'est ce que j'aimerais être là pour le retour du Christ. Mais même si je ne suis pas là, je le vivrai parce que je ressusciterai. Nous pourrons tous ensemble voir cette gloire. Alors avec tous les films que nous voyons aujourd'hui, et que, alors, ils y vont dans les effets spéciaux, on pourrait dire, mais c'est de la science-fiction. Et c'est vrai que si on y réfléchit, ça nous surpasse totalement. Comment les morts qui depuis 2000 ans, 3000 ans, sont morts et sont réduits en cendres, ceux qui ont été brûlés, etc., ben reviendront à la vie. C'est un mystère. Et c'est une certitude. Et pourquoi c'est une certitude pour nous croyants? Pourquoi on est certain qu'il va revenir? Parce qu'il vit en nous, parce que nous vivons cette expérience et que nous savons que sa parole est véritable. Et nous saisissons de ses paroles comme une espérance. Dans ces temps difficiles, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Malheureusement, nous ne savons pas qui sera le suivant à mourir du Covid ou de d'autres maladies. Nous ne le savons pas. L'année dernière, ma mamie avait fait il y avait une fuite de gaz dans la maison et elle a failli mourir avec mon oncle. Et mon père était tout perturbé. Et nos yeux étaient fixés sur mon oncle et ma mamie. Et puis finalement, c'est mon papa qui est parti. Nous ne savons pas qui sera le prochain. Mais ce n'est pas grave. Parce que nous avons cette espérance que Christ est avec nous. Nous avons cette espérance que si nous mourons, nous vivons en Christ. Nous avons aussi cette espérance que si nous perdons des êtres chers, Christ est ressuscité et il viendra en nous nous aider à surmonter ces épreuves de la vie. Oui, Pâques. C'est cette double bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que nous irons au ciel auprès de lui. Et cette bonne nouvelle que Christ est vivant et qu'il nous aide dès aujourd'hui dans tous les soucis de notre vie. Et dans tous les moments de joie, bien sûr, il est là aussi. Et alors, je ne veux pas que je sois trop long, donc je vais terminer maintenant par ces paroles d'Apocalypse qui sont merveilleuses au chapitre 21. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris. » car ses paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Christ est ressuscité.